Bonjour Jacqueline, bienvenue sur Fréquence Mistral pour ce nouvel épisode d'Histoire des féministes. Donc Jacqueline Engrave, présidente de Femmes Solidaires.
Oui, bonjour Odile, bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de Fréquence Mistral. Très heureuse de vous retrouver. Eh bien, on a vu, Odile, dans l'épisode précédent, si vous vous souvenez, que le droit de vote des femmes ne figure pas au programme du Front populaire ni au gouvernement de Léon Blum en 1936. Aucune proposition de loi n'est déposée en ce sens avant la guerre de 1939-45. Cela alors même que dans les manifestations de rue et les usines occupées et les grèves, on voit de plus en plus de femmes. L'action des féministes rebondit à nouveau en 1939, lors du 150e anniversaire de la Révolution française, une date symbolique. Mais la guerre éclate le 3 septembre et, comme lors de la Première Guerre, on l'a vu, stoppe les revendications et renvoie chaque sexe à sa place traditionnelle, les hommes à la guerre, les femmes à l'arrière. Alors la majorité des organisations féminines et féministes, les ligues dont on a parlé précédemment, se sabordent en mai-juin 1940, au moment de l'exode des populations du nord vers le sud de la France, pour ne pas demander l'autorisation d'exister, et leurs journaux cessent de paraître, à cause des divisions, de la dispersion des combats, du vieillissement de ses dirigeantes, la première vague féministe a déjà commencé à refluer en une étrange défaite, selon les termes de Christine Barr, historienne du féminisme. Instaurée après la débâcle militaire et l'invasion allemande du 10 mai 1940, le régime politique dit de Vichy, parce que le gouvernement s'est installé à Vichy dans l'Allier, remplace la Troisième République et collabore avec l'occupant allemand, l'armistice ayant été signé le 22 juin 1940. Le chef de l'État, le maréchal Pétain, dispose des pleins pouvoirs et entend restaurer la famille et les hiérarchies traditionnelles, exaltant le foyer domestique, appelant les mères à, je cite, « viriliser leurs garçons et féminiser leurs filles », réaction carrément antiféministe. Pour lui, l'émancipation des femmes, en les éloignant du foyer et de l'église, est de ce fait responsable de la déroute face à l'ennemi. C'est pourquoi est officialisée le 25 mai 1941 la Journée nationale des mères. On ne pouvait pas décemment parler de fête en ces temps. Cette journée s'inscrit dans une politique nataliste, familialiste, menée selon l'idéologie prônée « travail, famille, patrie », en mettant à contribution les enfants. Le régime de Vichy va demander aux écoles de préparer la journée des mères avec les élèves. Petits dessins, affiches, discours, mobilisation de la presse, bref, le régime va systématiser la célébration de cette fête. Après la libération, d'ailleurs, sa célébration a été inscrite dans une loi le 24 mai 1950, qui dispose que la République française rend officiellement hommage chaque année aux mères françaises. Plus tard, la fête des mères devient ce qu'elle est aujourd'hui, une opération commerciale, comme le sont la fête des pères, la fête des grands-mères, la fête des secrétaires, la fête des amoureux, etc. Les mères sont mises sur un piédestal. Vous êtes les inspiratrices de notre civilisation chrétienne, leur dit-on. Ainsi se concrétise l'expression de Honoré de Balzac, grand romancier du XIXe siècle, qui a écrit « La femme est une esclave qu'il faut savoir mettre sur un trône ». Sous-entendu, pour lui faire croire qu'elle est une reine, en reconnaissance de son « dévouement », entre guillemets, c'est-à-dire de son travail domestique gratuit et des maternités à répétition. Paradoxalement, le régime de Vichy n'est pas opposé au droit de vote pour les femmes. Le projet de constitution adopté en 1944 prévoit une forme de suffrage universel concernant les deux sexes. Paradoxe encore, de nombreuses femmes appartiennent aux unités féminines des organisations pétainistes collaborationnistes avec l'occupant. Certaines partent même volontairement travailler en Allemagne, par esprit d'aventure ou à pas du gain. Leur nombre est estimé à 80 000 françaises qui sont allées travailler en Allemagne. La réaction antiféministe du maréchal Pétain se concrétise aussi dans un arsenal de lois répressives. Répression accrue de l'avortement, interdit par la loi de 1920, on l'a vu, et désormais dénonçable par les médecins, qui pour cela sont déliés du secret professionnel par l'Ordre des médecins en 1941. Cette mesure touche 1225 personnes en 1940, 4055 en 1943, 3701 en 1944. L'avortement est un crime contre l'État, passible de la peine de mort. En juillet 1943, Marie-Louise Giraud, G-I-R-A-U-D, comme ça se prononce, mère de famille de 40 ans, est guillotinée pour avoir pratiqué des avortements illégaux. Des femmes meurent des suites d'un avortement clandestin, comme par exemple Solange Thoreau-Bell, morte à 27 ans. Autre restriction, restriction du droit au divorce, qui ne peut plus intervenir qu'après 3 ans de mariage. Réaffirmation de la prépondérance des décisions du conjoint dans la famille, c'est-à-dire du mari. Renforcement de l'application du code de la famille pour restituer la famille dans toute sa force et sa stabilité. Les infidélités conjugales des épouses des prisonniers font l'objet de poursuites pénales. La pénalisation des adultères des femmes, passe de 5 000 en 1941 à 8 000 en 1944. La propagande de Vichy montre des familles heureuses, regroupées autour d'une table bien garnie, pleine d'enfants aux joues rebondies, servies par une mère souriante. Mais la réalité des familles est tout autre, en cette époque de restrictions et de pénuries alimentaires. Les femmes, devenues chefs de famille suite à l'absence des hommes, partis à la guerre, morts ou prisonniers, ou au travail forcé en Allemagne, ou entrées dans la clandestinité du maquis, abandonnant femmes et enfants, les femmes cherchent à survivre, à nourrir leurs enfants, pauvres enfants dénutris malgré leurs efforts. Les veuves sont peu secourues, les familles sont en fait séparées, éclatées, certaines détruites à jamais par la déportation et l'extermination. Le marché noir s'installe, les prix explosent, les tickets de rationnement alimentaire et vestimentaire sont créés. Ils ne disparaîtront qu'au 1er décembre 1949, c'est-à-dire 4 ans après la fin de la guerre. En zone urbaine, les ménagères font la queue pendant des heures chaque jour devant les magasins de produits vitaux, leur ticket de rationnement à la main. Il fallait aller les chercher à la préfecture ou à la mairie. Des tickets pour des rations de lait, de pain, de viande, des chaussures, des vêtements, du charbon, etc. Cette situation ridiculise en fait la vision pétainiste du foyer idéal, ignorant ou feignant d'ignorer la souffrance quotidienne des gens. En mai-juin 1940, la terreur provoquée chez la population restante, c'est-à-dire les femmes, les enfants et les vieillards, par l'avancée éclair de l'armée allemande, en moins de 2 mois, elle a traversé les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et atteint le nord de la France, laissant des villages sinistrés et des populations civiles décimées derrière elle. Bien cette terreur entraîne la fuite des gens, une fuite massive vers le sud de la France. 8 à 10 millions de personnes, françaises, mais aussi hollandaises et belges, fuient sur les routes pilonnées par les avions ennemis. Le danger vient du ciel. Le nombre de victimes est estimé à 100 000. L'accueil des orphelins, des orphelines et des enfants perdus dans cette pagaille est organisé par la Croix-Rouge française, tenue principalement par des femmes. La Croix-Rouge estime à 90 000 le nombre des enfants perdus. On a un aperçu de cette catastrophe dans le film de René Clément, sorti en 1952, peu d'années après la fin de la guerre, un film émouvant, bien connu, titré « Jeux interdits ». L'histoire d'une petite fille de 5 ans, perdue parce que ses parents sont morts, atteints par des balles sur la route de l'Exode. L'urgence pour la grande majorité des femmes du pays n'est pas de participer à la vie politique, mais de se nourrir et de nourrir leurs enfants, de les protéger et même de les enterrer elles-mêmes quand ils meurent sous-alimentés et faute de soins médicaux. C'est ça la guerre. Cependant, contre le régime de Vichy et l'occupation allemande, une minorité de la population résiste pour défendre la patrie et les valeurs républicaines. Des femmes résistent aussi, de toutes les manières possibles. Certaines rejoignent le général de Gaulle installé à Londres et forment des compagnies de volontaires au sein des forces françaises libres à Londres. La guerre n'est pas concentrée sur un front comme en 1914. Elle se déroule sur tout le territoire, sur les routes, dans les villes, les villages, partout. Le pays tout entier est un grand champ de bataille et l'implication des femmes est directe. Elles participent au réseau de résistance, bien que n'ayant pas ensuite fait partie du Conseil national de la résistance, le CNR, composé de 16 hommes, anciens chefs de réseau, qui, au sortir de la guerre, ont conceptualisé et posé les bases de l'institution protectrice, communément appelée la Sécurité sociale, créée par les ordonnances des 4 et 19 octobre 1945, selon le slogan « À chacun selon ses besoins et selon ses moyens ». Pourquoi aucune femme dans ce CNR, se demande-t-on ? La réponse, un brin méprisante des hommes, et celle-ci, je l'ai entendue moi-même, parce qu'elles n'avaient que des rôles subalternes. Elles étaient agentes de liaison et de renseignement, distribuaient des tracts et des journaux, ravitaillaient les résistants combattants par des collectes de vêtements et de vivres, au besoin en utilisant des faux tickets de rationnement, combattaient elles-mêmes pour certaines, telles Madeleine Riffaut. Autant de tâches très nécessaires au bon déroulement des opérations. Les résistantes peuvent être qualifiées de féministes en raison de leur comportement de femmes libres, engagées et déterminées et qui, en faisant tout cela, risquaient leur vie comme les hommes pour défendre le pays. Elles ont été, elles aussi, arrêtées, torturées, déportées, exécutées. La guerre, toujours déclenchée par des hommes exclusivement, est aussi, par la force des choses, une affaire de femmes, dira la résistante Lucie Aubrac dans un discours prononcé à Londres à la radio anglaise. Seuls quelques noms surnagent parmi elles. Oui, on connaît Lucie Aubrac, mais les autres, elles sont occultées dans l'histoire de la résistance, déclinée quasi uniquement au masculin, comme la grande histoire de France, on l'a déjà dit, et leur rôle a été minimisé. Impossible de les citer toutes, nous mentionnerons en rappel celles dont nous avons relaté le parcours de vie ici même à partir de 2021. Danielle Casanova, morte du typhus à Auschwitz en 1943, créatrice de l'Union des jeunes filles de France. Olga Bansik, seule femme du groupe Manouchian, décapitée à la hache en Allemagne à 32 ans. Martha Desrumaux et Marie-Claude Vaillant-Couturier, toutes deux revenues vivantes du camp de Ravensbrück et qui ont consacré le reste de leur vie à témoigner de l'horreur des camps de concentration. Marie-Claude Vaillant-Couturier a témoigné en 1946 au procès de Nuremberg, le procès fait aux chefs nazis après la guerre. Charlotte Delbault, D-E-L-B-O, qui faisait partie du mouvement clandestin intellectuel du Parti communiste, a été arrêtée en 1942, déportée en 1943 à Auschwitz, puis à Ravensbrück, comme Marie-Claude Vaillant-Couturier et les autres. Revenue vivante, devenue femme de lettres, elle a témoigné elle aussi de la vie des camps de concentration et en a décrit les scènes dans plusieurs livres au titre évocateur. « Aucun de nous ne reviendra ». Une connaissance inutile et mesure de nos jours, publiée en 1965. Elle a écrit aussi Le convoi du 24 janvier, à propos du convoi des 230 femmes vers les camps dont elle faisait partie avec les autres résistantes précitées. En 1974, elle fut la première à réagir aux propos négationnistes de l'universitaire Robert Forisson, qui lui demandait de fournir des photographies comme preuve de ses dires, comme si elle avait eu à sa disposition un appareil photographique dans le camp. Eh bien, nous arrivons à la pause musicale et nous, pour rester dans le sujet, nous écoutons la chanson écrite en 1963 par Jean Ferrat, Nuit et brouillard est la traduction littérale de Nacht und Nebel, une expression utilisée pendant la Deuxième Guerre par le régime nazi pour décrire une politique de disparition secrète de personnes jugées comme des ennemis du Reich. Le Reich, c'est l'Empire allemand. Voilà, nous écoutons Nuit et brouillard par Jean Ferrat.
Ils étaient 20 et 100, ils étaient les milliers, nous et maigres tremblants dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps, leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel. Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux? Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors. La lune se taisait comme vous vous taisiez, en regardant au loin, en regardant dehors. Votre chair était tendre à leurs chiens policiers. On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang s'échevite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été. Je twisterai les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez un dessin, vous étiez des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez 20 dessins.
Bien, alors je reprends après cette belle chanson de 1963, je le rappelle, quand les rescapés des camps étaient encore vivants, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc 1941-1942, la guerre atteint un niveau maximum d'intensité, provoquant une grave crise alimentaire, une difficulté majeure pour se procurer les produits de première nécessité. Dans les villes, il y a une surmortalité infantile due à la mauvaise qualité du lait et au froid. Le rachitisme est largement répandu chez les enfants. Comme sous l'Ancien Régime, le manque de pain provoque des émeutes et face aux restrictions imposées, les femmes sont en première ligne. Les mères de famille en colère réclament de la nourriture pour leurs enfants. Dans le Nord, le littoral méditerranéen et la région parisienne, là où l'on souffre le plus du manque de vivres, elles manifestent devant les mairies, les préfectures et sous-préfectures. Les femmes communistes créent alors les comités populaires de solidarité et de protestation. Ces militantes sont issues de l'Union des jeunes filles de France, fondée en 1936 par Daniel Casanova, on l'a déjà dit. Ces comités deviennent le 18 novembre 1944 l'Union des femmes françaises, UFF, qui elle-même deviendra beaucoup plus tard le mouvement féministe d'aujourd'hui, Femmes solidaires. Ces comités sont actifs dans les manifestations féminines hostiles à l'occupant, opposées au travail obligatoire, au STO, et beaucoup de ces militantes entrent dans la résistance. En 1944, la France n'est pas encore libérée, mais à Alger, en Algérie, département français, l'Assemblée consultative provisoire, composée non d'élus, mais de délégués de partis politiques, de délégués du CNR, de syndicats, etc., 87 membres en tout, l'Assemblée consultative provisoire construit depuis 1943 la réorganisation des institutions. La question des droits politiques des femmes y est débattue, mais les suffragistes se heurtent encore à de nombreuses réticences masculines. Elles s'opposent notamment au radical corse Paul Giacobbi, président de la commission de réforme de l'État, et aux socialistes qui prennent comme prétexte des difficultés techniques, comme par exemple l'impossibilité de dresser rapidement la liste des électrices, et avance toujours les mêmes arguments, tels le danger du conservatisme réactionnaire des femmes et leur inexpérience de la vie politique. Pensez-vous qu'il soit très sage, dit l'un d'eux, dans une période aussi troublée, de nous lancer dans l'aventure que constitue le vote des femmes ? Estimez-vous que cela soit indispensable ? Enfin, le 24 mars 1944, le délégué communiste Fernand Grenier, comme ça se prononce, comme un grenier, sincèrement contre l'infériorisation constante des femmes dans la vie politique, propose un amendement qui stipule, je cite, « Les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes. C'est, dit-il, le moyen de manifester aux femmes notre solidarité et notre volonté de ne plus les traiter en mineurs, en inférieurs. Cet amendement est accepté par 51 voix contre 16. Il devient l'article 17 de l'ordonnance du 21 avril 1944 sur l'organisation des pouvoirs publics, signée par le général de Gaulle. Celui-ci n'avait-il pas déclaré, dès 1942, dans la presse clandestine, « Une fois l'ennemi chassé du territoire, tous les hommes et toutes les femmes de chez nous éliront l'Assemblée nationale qui décidera souverainement des destinées du pays. » Pendant qu'à Alger se déroule cet événement politique majeur, la fin de la guerre n'est pas l'apaisement total pour les femmes. Cette fin de guerre s'accompagne en effet d'une hausse des violences sexuelles envers elles. Nous avons déjà eu l'occasion de le dire, mais il faut savoir que pour les soldats de toutes les nationalités, qu'ils surgissent en envahisseurs ou en libérateurs, les femmes sont du butin de guerre. Elles sont violées par des soldats sûrs de leur impunité, on pourrait même dire sûrs de leurs droits. Mais le viol des femmes françaises, tant par les Allemands que par les Nord-Américains, est effacé du souvenir de la guerre. Il ne faut pas en parler. On en a retenu essentiellement le phénomène de ce qu'on appelle l'épuration, à savoir la traque et le jugement populaire expéditif des collaborateurs et collaboratrices avec l'ennemi. La tonte des cheveux est un châtiment sexuel et sexué réservé aux femmes, parce que la chevelure est un marqueur de la féminité, une parure. Ce sont des femmes dont les résistants hommes français ont rasé la tête, encouragés bruyamment par un public avide de désigner des boucs émissaires. On les appelle les tondues, comme on tond les moutons. Pourquoi ? Quels crimes ont-elles commis ? Pour la plupart, elles avaient eu des amants allemands. On appelait cela la collaboration horizontale. Ces hommes, ces Français, pouvaient même, dans leur empressement sadique de s'en prendre au corps des femmes, comme pour se venger sur elles de l'humiliation subie pendant la guerre, ils pouvaient graver sur leur front ou sur leur poitrine dénudée des croix gammées, un symbole nazi. Robert Capa, le grand photographe de guerre de l'époque, a saisi sur le vif une scène qu'il a intitulée « La tondue de Chartres ». On y voit une très jeune femme de 23 ans, Simone Touzeau, crâne rasé, s'avancer à grands pas, un bébé dans les bras, dans la rue, sous les insultes d'un cortège de gens hostiles, hommes et femmes. Ne s'étant jamais remise de cette épreuve, elle décède profondément dépressive en 1966 à 44 ans. Cette photo est publiée dans Life magazine dès le 4 septembre 1944. Elle a toujours un grand succès, image pourtant peu glorieuse de la libération. Est-ce de l'art ? Elle est devenue le symbole de la tonte de 20 000 Françaises, estimation basse. Elle nous laisse la trace amère de cette atmosphère revancharde des hommes français envers des femmes qui leur ont préféré des Allemands comme amants. À Chartres, la ville à peine libérée, 11 femmes sont tendues de la sorte dans la cour de la préfecture, ce qui prouve la complicité de l'État dans ses actes. Et puisque nous sommes à la veille du 8 mai et que nous commémorons la fin de la guerre en Europe, le 8 mai 1945, c'est la capitulation de l'Allemagne, le 8 mai 1945. Nous précisons que la Seconde Guerre mondiale aura fait 520 000 morts en France. Les bombardements alliés, c'est-à-dire anglais et nord-américains, ont tué 72 000 Français et Françaises. En Avignon, 500 personnes meurent sous les bombes américaines en une seule journée. À Digne, en août 1944, ce sont 26 personnes qui sont tuées par les bombes américaines. Revenons à notre sujet. C'est donc une assemblée masculine non élue qui a permis cette victoire démocratique révolutionnaire, le droit de vote des femmes près d'un siècle après les hommes en France. Sans aucune allusion cependant aux luttes des suffragistes, car rien n'a été accordé ou octroyé aux femmes. Elles ont conquis elles-mêmes leurs droits de haute lutte contre les hommes au pouvoir. Cette victoire, on ne la doit pas à une sorte de magnanimité de la part d'un seul homme. Ce n'est pas non plus une forme de récompense pour bonne conduite, comme on donnerait un bonbon à un enfant méritant. C'est le résultat, ô combien tardif, de la lutte des femmes depuis des décennies, complétée par leur participation indéniable aux actions menées pour délivrer la France de ses ennemis et subvenir aux besoins des familles dans la première moitié du XXe siècle. Alors la France n'est que le 99e pays à reconnaître le droit de vote des femmes. Ce droit est inscrit dans la Constitution de 1946 de la 4e République. Son préambule stipule, je cite in extenso, « La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme. » Et le préambule de la Constitution de 1958, instituant la 5e République sous laquelle nous vivons encore aujourd'hui, reprend les mêmes termes. Mais les féministes et observatrices vont vite constater que le droit de vote, pour indispensable qu'il soit par ce qu'il représente, ne résout pas les problèmes d'inégalité sociale criante entre les hommes et les femmes, au détriment de ces dernières. Tout d'abord, le code civil, si infériorisant pour les femmes, comme on l'a vu, reste le même à cet instant historique. La loi de 1920 criminalisant l'avortement reste en vigueur. L'avortement est interdit en France, passible de prison pour ceux et celles qui le pratiquent et celles qui sont forcées d'y recourir. Le droit de vote et les actions, même héroïques, dans la résistance ou dans la vie quotidienne, ne fournissent pas ensuite un métier ni un diplôme, donc l'indépendance financière aux femmes, condition sine qua non de la liberté. On leur enjoint, comme après la Première Guerre, de faire des bébés, et on accentue pour cela la politique nataliste en augmentant les allocations familiales dès le deuxième enfant par famille, le salaire unique, le congé maternité, ce qui pousse les femmes à rester au foyer, dépendantes financièrement de leur mari. À faire beaucoup de bébés, effectivement, c'est le boom des naissances. C'est ce qu'on a appelé le baby-boom des années qui ont suivi la guerre. Eh bien, en conclusion, nous dirons que tout reste à faire pour libérer les femmes à aller vers l'égalité réelle avec les hommes. Ce sera l'objectif de la deuxième vague après la 4e République et au début de la 5e République. Et nous allons l'aborder dans notre prochaine émission, Odile, la 9e, le mardi 4 juin 2024.
Merci Jacqueline pour ces belles émissions très intéressantes. Je rappelle qu'on peut les retrouver sur notre site www.fréquencemistral.com dans nos émissions et c'est intitulé donc l'histoire des féministes. Merci.
Merci.
Bonne journée. À bientôt.
Oui, au revoir. Bonne journée à toutes et à tous.